Jean-Baptiste Wynne, un photographe pris dans le miroir asiatique.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Comment dévisager Jean-Baptiste Wynne, un des rares photographes reconnaissables au premier coup d'œil? Comment envisager ce professionnel du portrait qui, depuis plus de 25 ans, capte non seulement les regards, les mains, les nus, mais détourne aussi les objets, genre miroir ou bol à thé japonais, avec un seul objectif d'ailleurs, déshabiller pour mieux humaniser celui qui prend et celui qui croyait être pris. Jean-Baptiste Wynne a donc plus d'un secret, plus d'un visage. Visage d'un Eurasien né dans la Creuse, en France. Visage du fils adoptif d'une certaine Catherine Deneuve, dans Indochine. Visage de l'autodidacte, devenu une référence, exposé aujourd'hui dans le monde entier et accueilli en grande pompe au Musée national des arts asiatiques à Paris, le musée Guimet, sans guillemets d'ailleurs, avec juste une vraie écriture photographique au service de son exposition intitulée « Infini d'Asie ». D'où venez-vous, Jean-Baptiste Wynne? Je vous pose la question parce que je sais que vous revenez toujours d'un bout du monde.
Je reviens du Kenya, là où je suis parti quelques jours, une dizaine de jours, pour faire des portraits de Somaliens, de Somaliennes et de Maasai.
Waouh, on en reparlera. C'est une promesse en sol majeur. On va d'abord poser une première petite touche quand même asiatique. En conviant, il est bon ce thé là ?
Oui, très bon, merci.
Pour vous aider à devenir zen en un thé seulement. Oui, on va poser une première petite touche asiatique en conviant Yo-Yo Ma. C'est un pianiste américain d'origine chinoise qui est né à Paris et qui a joué sous la direction des plus grands, Leonard Bernstein ou Myung Woon Chung. C'est pas un zozo quoi, comme on dirait. Qu'est-ce qui vous séduit dans ces suites de violoncelle de Bach ?
Le calme, l'imaginaire que j'y perçois. Et aussi le fait que, là c'est une dimension plus affective et plus personnelle, que c'est un livre que Maria Maurice-Hambourg, qui est la personne qui a fondé le département photo du Metropolitan, et qui est venue m'interviewer et travailler sur l'essai, le texte qui ouvre l'ouvrage Infini d'Asie. Elle m'a dit, écoutez Jean-Baptiste, moi j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur vous, pour vos expositions au Louvre, ce que le président du Louvre a écrit aux différents historiens de l'art. C'est très bien, je ne vais pas redire la même chose. Moi mon souhait, c'est d'écrire et de comprendre les fondements de votre écriture photographique, ainsi que les fondements de votre personnalité d'artiste et d'homme, en phase et en miroir avec vos doubles origines. Et elle m'a offert ce disque que j'apprécie beaucoup.
Mais pour en sol majeur, on va essayer d'imaginer qu'il y a un lien entre le violoncelle de Bach et votre photographie à vous, Jean-Baptiste Wynne. Regardez dans le miroir, Jean-Baptiste Wynne, qu'est-ce que vous voyez ?
Mon regard en premier, Et c'est la bonne question. Oui, oui, mon regard en premier, les traits viennent après. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le reste du monde n'existe plus. Et un fait que j'ai constaté, je dirais depuis même adolescent, est que toute personne qui se regarde dans un miroir change de visage. Même les personnes qui semblent être complètement détachées de leur visage, même un moine, même un religieux. Je pense que tout le monde a un désir de construire une image de soi, sauf peut-être les enfants. Et je pense que notre image ne nous appartient pas, qu'elle appartient vraiment au regard de l'autre. Et que le miroir, moi qui est un objet qui me fascine depuis mes débuts de la photographie, parce que c'est l'objet par excellence de connaissance de soi, de connaissance de l'infini avec les télescopes, le fait qu'au moment de l'invention de la photographie, il y a eu juste avant la chambre claire qui permettait aux peintres de représenter le réel en le projetant d'abord en deux dimensions, comme le miroir le fait, on a une perception du monde qui est beaucoup plus compréhensible qu'en trois dimensions. Et pour revenir à votre question, que je ne m'étais jamais posée à vrai dire, oui, je pense que c'est vraiment le regard que je vois en premier.
Alors aujourd'hui, on doit vous dire que vous avez sans doute un beau visage eurasien. Mais quand vous étiez tout petit, à Châteauroux, ça se trouve dans un coin de Creuse, dans un coin de France profonde, c'est là-bas que vous êtes né en 66, Jean-Baptiste Wynne. Oui. Est-ce que vous avez eu la sensation de grandir avec un visage problématique ?
Moi, j'étais plutôt pas très à l'aise avec la joliesse ou la beauté de mon visage. Alors oui, j'ai souvenir que quand je me promenais avec maman, souvent, on nous arrêtait pour lui dire que j'avais un visage avec cette grâce et cette beauté, cette particularité d'un mélange de traits eurasiens et un raffinement et une certaine élégance. Enfin, donc là, je cite des mots qui revenaient souvent. Je pense que ça allait avec une sorte de différenciation dont j'ai pris conscience progressivement, sans comprendre pourquoi, puisque je ne connaissais rien du Vietnam, et en même temps mon désir de faire des images. Je pense que les deux étaient en opposition.
Donc on ne vous disait rien sur ce Vietnam quand vous étiez tout petit ?
Non, rien du tout. Mon père ne nous a jamais rien dit par rapport au Vietnam. Il est parti jeune, vers 14 ou 15 ans. Je pense qu'il a fermé la porte.
Arrive 1992 dans votre vie et le réalisateur français, donc Régis Varnier, qui prépare son film. C'est un drame historique immense, oscarisé notamment. Indochine, et là vos routes vont se croiser.
Oui, en fait c'est des jeunes comédiens que j'avais photographiés pour leur pressbook qui ont été approchés par des stagiaires au casting qui ont dit nous on connaît un Eurasien, il n'est pas comédien mais allez voir s'il pourrait convenir. Et donc j'ai rencontré ces stagiaires, bon, j'ai décliné la proposition et après le responsable du casting, et après le premier assistant et après Régis. Donc j'ai joué toute la partie en Suisse où j'étais seul avec Catherine Deneuve.
Et vous étiez donc son fils adoptif. On va juste écouter pour En sol majeur un petit extrait. Ça va nous permettre de nous replonger dans ces années 30-40 pour écouter donc ce fameux tête-à-tête. C'est à la fin du film, hein, oui. Entre Eliane, héritière de la plantation familiale coloniale, et Étienne, son petit-fils adoptif. Catherine Deneuve et Jean-Baptiste Wynne, c'est maintenant.
Demain, la France perd l'Indochine pour de bon. Les Vietnamiens sont venus avec une nombreuse délégation. Camille, ta mère est dans cet hôtel, là-bas. Chambre 212. Tu veux la voir ?
Et toi ?
Moi, non. Tu l'as vu ?
Dans le hall, il y avait beaucoup de monde. Des policiers, un service d'ordre, des barrières. Tout d'un coup, je n'ai pensé qu'au ridicule de la situation. Je me suis imaginé en train de me précipiter sur une Indochinoise, en criant « Maman !» Alors j'ai pensé qu'il fallait qu'il y ait un miracle. J'espérais qu'une de ces femmes allait se jeter vers moi en criant « Étienne, mon fils !» J'ai attendu, assez longtemps. Il ne s'est rien passé. Alors je suis sorti.
Tu plaisantes toujours ?
Non. Ma mère, c'est toi. Qu'est-ce qui t'arrive ?
J'ai cassé mon talon.
Jean-Baptiste Wynne pour En sol majeur sur RFI, donc dans Indochine, aux côtés de Catherine Deneuve. C'est incroyable quand même cette histoire, le fait d'être comme ça propulsé dans un décor de cinéma qui raconte l'histoire coloniale de l'Indochine française, dont sont issues une partie de vos lointains ancêtres, Jean-Baptiste. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez traversé ça? Est-ce que vous vous êtes fait un film dans le film?
Concrètement, Régis Varnier avait tourné déjà 5 mois au Vietnam. Donc moi, mon rôle est un rôle à la fin du film où tout le film est raconté à ce personnage. Il doit prendre position par rapport à ce que le spectateur vient de voir. Et moi, j'étais, comme je disais, très, très introverti. J'étais pas à l'aise avec mon image, même en photographie et encore moins le fait d'être filmé. Et je me rappelle très bien que, bon, Catherine Deneuve est arrivée pour la première scène qui était à 6h30 du matin sur le bateau sur le lac de Lucerne. Catherine Deneuve est arrivée en vedette de police avec son coiffeur, son maquilleur, sa doublure. Moi, du coup, étant donné que j'étais le seul autre acteur du tournage, j'avais aussi ma doublure et mon maquilleur, mon coiffeur. Enfin, j'étais vraiment entouré
de problèmes.
Voilà. Et Régis dit à Catherine les textes. Voilà. Et elle, évidemment, grande professionnelle, elle les entend une fois, elle s'en rappelle et elle commence. Elle était à côté de moi sur le bateau et elle me parle, elle joue direct. Et moi, je lui dis, mademoiselle, vous me parlez ou vous jouez? Elle me regarde, elle regarde Régis, elle me regarde, elle me dit, jeune homme, il faut toujours connaître les répliques de son partenaire. Et je lui dis, mademoiselle, 5 mois de tournage ont été effectués au Vietnam, je débarque là, dans une situation que je ne connais pas. Dans le film, je dois vous appeler maman, dans la vie, mademoiselle, et pour moi, vous êtes Catherine Deneuve, et vous êtes là à me toucher. Et Régis lui a expliqué effectivement l'énorme gap que je franchissais à ce moment-là. Et après, elle a été formidablement attentive, bienveillante. Donc ça a été un plongeon dans un univers, d'abord univers cinématographique, alors que moi j'ai toujours travaillé seul.
Mais qu'est-ce que ça vous a apporté finalement, vous qui avez un problème avec ce visage, comme vous dites?
Moi, à la fête de fin de tournage, Régis et Catherine m'ont demandé comment j'avais trouvé mon baptême de cinéma. Et moi, j'ai dit que j'avais trouvé ça extrêmement difficile à vivre et que je n'avais aucune envie d'être une image et j'avais vraiment besoin de construire les miennes et j'ai disparu. Après, moi, j'ai eu plein de propositions parce que le film a ouvert le Vietnam au monde.
Mais le bel Eurasien, comme vous dites, il intervient à la fin du film. C'est une scène clé. Et effectivement, Régis Varnier, le réalisateur, vous fait intervenir pour prendre position, finalement, par rapport à l'histoire avec un grand H. Donc, il vous a donné du grain à moudre. Vous n'étiez pas qu'une image, finalement.
Je suis d'accord, mais moi, je l'ai vécu de cette manière-là. Bon, on m'a proposé de jouer dans L'Amant, ce que j'ai refusé.
L'Amant,
l'adaptation
de Duras.
Voilà. Mmh. Et même quand j'ai rencontré Duras, où j'étais avec ma sœur, passionnée par Duras, et moi, je n'ai rien lu d'elle. Et je me rappelle avoir tendu le livre à Marguerite Duras, où il y avait, je ne sais pas, 200 personnes et 50 journalistes, pour le faire dédicacer pour ma sœur. Elle prend le livre, elle lève les yeux, elle me regarde et elle me dit immédiatement, vous, non, en fait, toi, tu sais, tu m'as fait ça, j'avais 14 ans, tu m'as fait vivre cela, j'avais 14 ans, tu m'as plongé dans une solitude à vie.
C'est-à-dire qu'elle vous a pris pour l'amant.
J'étais l'incarnation de son souvenir. Sauf que c'est pas ma vie, moi. Et quand elle commence à toucher mes cheveux ou ma peau en me disant qu'elle n'a pas changé, c'est quand même très troublant. Donc le rapport
Donc en fait, vous avez dû lutter contre les projections récurrentes des autres sur vous-même.
Oui, par rapport à la question de l'image, justement.
C'est intéressant que vous soyez devenu photographe.
Absolument, absolument.
Et pourquoi cette idée, Alain?
Ma passion pour la lumière, en premier, qui vient incontestablement de maman. Où je me rappelle qu'enfant, elle m'appelait pour aller voir le lever du soleil ou le crépuscule en haut de la maison, et que même maintenant, toujours, elle se lève avant le lever du soleil pour voir la lumière du jour arriver, ce qui est un moment très particulier. Et maintenant, quand je regarde un visage, ou quand je regarde un objet, ou un bol à thé, ou un miroir, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est comment l'éclairer et comment l'interpréter, pour comment donner ma version du réel.
Pourquoi ne pas avoir fait d'école?
J'aime pas les groupes.
Vous êtes un déscolarisé assumé.
Oui. Enfant et adolescent, j'étais comme ça et très solitaire.
Je comprends que vous ayez fui les Oscars pour Indochine.
Oui, oui. Mais bon, maintenant, 25 ans après, j'ai fait une quinzaine de livres, mon travail de photographe est reconnu, je le vis de manière beaucoup plus sereine.
Alors, avant de découvrir votre travail de regardeur, Jean-Baptiste Wynne, un petit détour en sol majeur par la case Tom Waits avec Ruby's Arms. Je vois que le thé descend, c'est très bien. Alors, un autre thé, j'ai l'impression. Tom Waits, dans cette chanson, c'est un peu un soldat de l'amour au cœur brisé, c'est ça ? C'est un peu violonneux, hein ?
Oui, avec une dimension romantique et romanesque que je trouve très touchante.
I will leave behind all of my clothes I wore when I was with you. All I need's my railroad boots and my leather jacket. As I say
Tête à chapeau pour portraiturer le bizarre, c'est Tom Waits sur RFI. Pour un en sol majeur qui zoome sur Jean-Baptiste Wynne, un photographe qui dégrafe les visages jusqu'à la pureté. Et en fait, quand il photographie l'autre, avec un grand A comme Asie, tout est dans le clic et dans le déclic.
Jay.
J comme... Je demain, je te file.
Oui, pour ceux qui sont à Paris en ce moment et qui peuvent aller découvrir votre travail de photographe au musée Guimet, je rappelle que c'est le musée national des arts asiatiques qui expose essentiellement des objets d'art ancien ou des objets archéologiques. Première question, Jean-Baptiste, quel est votre lien avec ce musée ?
C'est un musée que j'aime profondément, de par les collections et l'atmosphère qui se dégage.
C'est un voyage dans le temps,
oui,
quand on est dans ce musée.
Absolument, et l'intemporalité, l'intensité et la densité de la présence, par exemple, des divinités bouddhiques m'apporte beaucoup de plaisir visuel et de bien-être intérieur.
Et comment l'idée de s'installer dans les murs de ce musée s'est faite ?
La présidente, Sophie Macariou, qui connaissait mon travail, en fait, Henri Loirette, le président du Louvre, m'avait invité à concevoir une exposition inspirée des collections du musée, dans la tradition que les artistes se sont toujours nourris des maîtres anciens. Et à ce moment-là, Sophie était directrice du département des arts islamiques. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là, elle a découvert mon travail à ce moment-là, ainsi que le travail que j'avais, les rétrospectives de portraits que j'avais eu au Beaux-Arts. Et donc elle m'a invité, il y a 2 ans et demi, à concevoir une exposition en me donnant une carte blanche. Et moi, je lui ai dit que forcément l'exposition allait être très proche de ma vie et de ma rencontre avec l'Asie, et avec un caractère autobiographique qui me paraissait indispensable, dans le sens où je ne pouvais pas raconter une autre histoire que celle que j'ai vécue et comment j'ai construit tout ce parcours de découverte et de portrait en Asie.
Alors vous qui n'aimez pas votre image, il n'y a rien de plus important que l'image dans votre vie aujourd'hui. Vous avez donc tout réussi et l'affiche de votre exposition Infini d'Asie, il faut qu'on en dise un petit mot, elle est belle, elle est blanche et elle montre un œil fermé sur une peau de porcelaine. Ça dit quoi ça du regard du photographe ?
Lors de mon premier voyage au Vietnam, j'ai rencontré une enfant qui avait 11 ans, qui s'appelle Luen, et que je photographie tous les ans depuis 24 ans. Donc j'ai l'histoire de son visage.
Parce que c'est ça qui vous intéresse, hein, c'est le tracé, ouais, la transformation du visage dans le temps.
L'impact du temps sur le visage, sur la personnalité. Donc maintenant elle a 34 ans, elle est à Paris, là je l'ai invitée pour voir l'exposition, et elle est venue avec ses deux enfants. J'ai fait son portrait 2019 hier, ce qui était extrêmement émouvant. J'ai par ailleurs photographié tous les sens de son visage, l'oreille, l'odorat, la bouche et l'œil fermé. Et la paupière qui est l'affiche de l'exposition Infini d'Asie et sa paupière qui symbolise évidemment l'Asie, puisque c'est la bride, le regard intérieur, le sommeil, l'abstraction, plus le rapport à la calligraphie, parce que c'est une image qui est extrêmement précise, où on voit même les tubulaires des cils.
Alors, cette exposition, elle se décline en plusieurs volets. On peut dire un mot du volet, ce que j'appellerais le détournement d'objets. Vos objets sont toujours en suspension, première remarque.
Les objets sont toujours en suspension. Sophie m'a demandé d'être commissaire, de concevoir l'exposition et la lumière. Donc moi, j'ai plongé tout le musée dans le noir et en bleu nuit, avec comme volonté de placer le visiteur dans le même état de face à face et de concentration que je l'ai été avec les visages ou avec les objets. Donc il y a, comme les visages, c'est toujours un seul objet ou un seul visage sur fond noir, donc détaché du réel, et en suspension. Et j'irai accentuer cet effet de flottement en mettant le musée dans le noir et en éclairant uniquement mes œuvres. Donc il y a une espèce de perte de repère où on est dans une sorte de cosmos avec des miroirs qui sont interprétés comme des galaxies, ainsi que les volatés.
Et qu'est-ce que vous faites d'une tête de Bouddha ?
Une tête de Bouddha, alors là c'est beaucoup plus difficile de me l'approprier, parce qu'elle a une densité, et là, c'est vraiment accentuer sa présence et son intériorité. Et ce que je trouve fascinant, c'est effectivement un bloc de granit extrêmement dur que j'ai mis juste à la fin de l'expo. On a vraiment l'impression qu'il sourit, qu'il respire et qu'il dégage un bien-être et une sérénité qui est vraiment, vraiment étonnante. Et je peux vous dire que moi, en tant que portraitiste, avoir l'équivalent sur un humain, peut-être que sur beaucoup de portraits, le Bouddha en statue, c'est lui qui gagne.
Et puis il y a donc toute votre série de portraits de visages asiatiques. On a nos iPads et nos iPhones sous les yeux. On va s'en servir un petit peu parce qu'avec cette question quand même en prélude, Jean-Baptiste Win, qu'est-ce qui se passe au moment où vous déclenchez votre appareil, si j'ose dire ? Est-ce que, à quel moment, le visage que vous repérez comme ça, dans le monde, devient pour vous un objet photographique potentiel ?
Alors,
fermez vos yeux en répondant, c'est joli.
Je demande toujours aux personnes qui m'inspirent s'ils acceptent le portrait. Donc ce sont des portraits posés. J'installe mon fond noir, mettons, au marché, ou dans un endroit, ou dans un petit espace. Donc effectivement, au Vietnam, et c'est ce qui commence l'exposition, c'est qu'au Vietnam, j'ai vraiment voulu faire une étude du visage, une sorte de portrait emblématique du Vietnam à travers le visage de ses habitants. Et c'est une série qui va de l'enfance à l'homme âgé. Mon idée, mon souhait et mon désir était de comprendre l'origine de mon visage. Donc c'était d'un côté un travail artistique, photographique, et en même temps un travail introspectif lié à une question originelle, nécessaire, et donc j'ai construit mon regard et ma rencontre avec l'Asie et avec le Vietnam de cette manière, et après je l'ai décliné un peu partout en Asie, un peu partout dans le monde.
En prenant appui là sur ces trois photographies, qu'est-ce qui s'est passé entre ces... Il y a combien ? Il y a deux modèles là ? C'est le même modèle ?
Trois
modèles.
Il y a la jeune Huen, là c'est son troisième portrait. Alors ce qui est assez étonnant et mystérieux avec le regard, donc là elle a 13 ans. Et sur cette image, il est incontestable que quand on regarde son regard, on voit et on sait et elle sait qu'elle est regardée. Et c'est le début de la féminité. Donc elle a non seulement, là c'est le troisième portrait, non seulement les traits ont évolué avec le temps, mais le regard aussi.
Avec l'idée quand même de la pureté, hein, elle a un visage... Oui. bon, on va dire de porcelaine, pardon pour les clichés, c'est le cas de le dire, les cheveux tirés avec une natte qui descend comme ça dans la nuque, mais il n'y a pas d'apparat, il n'y a rien, elle se livre nue, si j'ose dire. Il y a l'idée de la nudité d'elle-même.
Oui, absolument. Et l'idée de sortir du contexte social, la particularité, je dirais, de mon écriture photographique, c'est que le noir zéro est derrière. Tout a une valeur lumineuse, même ce qui est noir ou même les ombres. Donc il y a tout est lumineux et il n'y a pas d'effet de cadrage. La personne est centrée et regarde. Mon souhait, lorsque je réalise un portrait, est d'éviter le paraître ou la construction d'image de soi ou la protection. Donc elle est dans une sorte d'abandon.
Comment on obtient l'abandon à ce point ?
En parlant, je vois précisément toutes les tensions qu'il y a dans le visage. Je photographie depuis 35 ans à la même distance de la personne.
À combien de distance vous êtes ?
1m20. C'est-à-dire que si je suis plus près, j'ai le sentiment d'être intrusif. Et si je suis plus loin, j'ai l'impression d'être... Donc c'est vraiment une distance qui s'est imposée naturellement et qui reste la même.
C'est une distance miroir. C'est une dialectique entre l'autre et vous-même.
Oui, mais c'est exactement l'enjeu du portrait. Parce que moi j'ai remarqué que ce soit cette jeune vietnamienne ou un enfant guerrier éthiopien ou un maharaja ou un intouchable, je cherche exactement... la même chose chez l'autre, et je pense que le portrait est vraiment la rencontre de sensibilité, la personne que je photographie et la mienne. Et ils le sentent, et même quand je photographie des animaux, j'ai remarqué qu'ils le sentent également. C'est-à-dire que j'arrive à obtenir le même calme. Là, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai photographié un aigle et un loup. Bon, c'était extrêmement dangereux comme prise de vue.
Est-ce qu'on peut parler d'abandon, là, chez le loup ou chez l'aigle ?
Oui, je l'ai, la photo, je peux vous la montrer, il est... Ils sentent ce que je cherche. Ils le sentent, ou même parfois, quand je travaille avec des non-voyants ou des enfants sourds dans des écoles au Cambodge, où il y a une grande déperdition, puisque j'ai un interprète français-cambodgien et un interprète cambodgien langage des sourds. Et à ce moment-là, c'est vraiment les yeux dans les yeux, où je vois toutes les tensions qu'il y a sur le visage, et notamment sur la bouche, ce qui est récurrent, ce qui est quasiment universel. Donc là, j'essaye de progressivement de tout enlever en décrivant ce que je souhaite. Et après, c'est vraiment un voyage mental avec la personne pour essayer de l'amener dans une espèce de paix, de calme et d'abandon.
Bon. Vous disiez que, en fait, vous esquissez finalement le visage emblématique asiatique, enfin tel qu'il vous apparaît à vous. Est-ce que vous êtes dans une fascination ? On ressent une fascination pour ce visage asiatique de votre part, Jean-Baptiste Win. Est-ce que vous diriez que c'est une fascination exotique ?
Non, exotique, non. Non, c'est une fascination, bon, d'abord parce que j'ai réalisé effectivement que c'était une partie de mon visage. Ce qui est étonnant, c'est que même si, par exemple, je fais asiatique et en Asie, on voit que je suis asiatique, et bon, on me dit asiatique moderne parce que grand, et l'œil bridé est quand même quelque chose, là, pour le coup, qui me fascine. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau, je trouve ça très pur. Il y a quelque chose de très dessiné. Alors, j'ai appris récemment, je pense que ça vient du fait qu'à une certaine époque, notamment en Mongolie et au Kazakhstan, il y avait et en Chine, des grandes steppes avec toujours du vent, et donc le regard, ce serait, ou la forme de l'œil, ce serait adapté. Bon, j'ai pas la définition exacte, mais en tout cas, la bride, quelque chose qui me fascine beaucoup.
Alors, dans le cadre de votre exposition, je parle d'une autre exposition qui s'appelle « Woman Portrait de la beauté », qui est installée à la Galerie Le Long à Paris, vous avez aussi réalisé des interviews filmées d'une quinzaine de personnalités diverses qui répondent à votre question, Jean-Baptiste Win, à savoir, pour vous, qu'est-ce que la beauté et qu'est-ce que la beauté représentée par les artistes ?
Je dirais que la beauté, c'est ce qui console, c'est ce qui exalte.
Le réalisateur Tran Anung.
C'est aussi nécessaire que la nourriture. Mais en même temps, quand je regarde une fleur, sa beauté est pour moi forcément contaminée par toutes les fleurs des grands peintres. Et que l'intensité des couleurs de la fleur vient aussi de certaines intensités que je ressens par ailleurs dans les tableaux. Autrement dit, pour moi, toute beauté est forcément formulée. Parce qu'il n'existe rien autour de nous qui n'a pas été déjà formulé, prononcé par quelqu'un.
Je pense que les choses sont très immédiates. Il n'y a pas, ça ne passe pas par l'intellect, ça passe par le corps directement.
La comédienne Yen Ketram.
Et je suis certaine que le corps, que nos sens, que nos cellules sont chamboulés par une œuvre ou par un ciel, par les sommets d'une montagne. Ça, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. J'en suis persuadée de ça. Et je pense que l'artiste, finalement, toute sa vie, essaye de retrouver, de pouvoir partager cette émotion au spectateur. Et c'est le regard, finalement, du spectateur qui fait que cette œuvre et cette émotion peut exister.
Alors, il est clair que lorsqu'on parle de beauté, on n'est pas du tout au pays de Nabila. On parle là plutôt de beauté intérieure avec ce mystère. Comment est-ce qu'on capte cette beauté intérieure quand on est photographe? Est-ce que vous êtes d'accord avec un Baudelaire qui dit que le beau est toujours bizarre?
Pas entièrement. De toute façon, la réponse est forcément personnelle et incomplète. Parce qu'à partir du moment où on a défini le beau, ou même dans l'histoire de l'art, quand il y a un courant qui définit une forme de beauté, la minute après, il y en a un autre qui le détruit, ou comme dans l'œuvre de Picasso, pour en créer une autre. Donc la beauté est forcément éphémère et fragile, comme dit Emmanuel Ungaro. Ou elle peut être aussi, comme dans l'œuvre de Bacon, dans une espèce d'approche plus psychologique qui passe par une forme de laideur pour atteindre une beauté plus psychologique ou plus liée à un univers intime de ce peintre Bacon et ses visions parfois cauchemardesques, où il transcende justement le bizarre pour rendre une forme de beauté qu'il fait découvrir.
Alors, puisque vous avez cité plusieurs fois Emmanuel Ungaro, je crois qu'on ne va pas y couper. J'aimerais qu'on tende l'oreille donc du côté de cette référence importante pour vous, photographe. Emmanuel Ungaro, c'est un grand nom de la haute couture, en tout cas dans les années 80. On va l'écouter, commenter sa collection d'été 88, c'était pour le journal télévisé.
Jupe courte, au-dessus du genou?
Oui, la longueur se situe au-dessus du genou, si c'est comme ça qu'on peut expliquer les choses, mais ce qu'il faut expliquer surtout, c'est l'élégance et la purification, ou la recherche de purification dans les formes. C'est ça qui me paraît essentiel. Vous voyez là des robes qui sont en fait la traduction de ce que nous, les hommes, portons, des costumes d'hommes finalement traités avec une désinvolture et avec une espèce de recherche d'équilibre à travers les épaules, les hanches qui sont très importantes, la longueur bien évidemment.
Est-ce qu'il y a des pantalons dans votre collection? On va peut-être en voir tout à l'heure.
Extrêmement peu. Les pantalons ne comptent pas beaucoup. Enfin, en tout cas pour moi. Ce qui me paraît important, c'est d'exprimer cette féminité, cette sensualité et cette liquidité qui s'exprime parfaitement à travers ces robes que vous venez de voir maintenant.
Beaucoup de gris, de noir.
Il y a le gris traité, mais traité dans l'argent justement. Il n'y a pas, ce n'est pas un gris triste. Et là, vous avez tout un tableau d'ensemble rose et noir qui a voulu être vraiment un poème, en fait.
Féminité, élégance, purification, liquidité, poème, ce sont des termes de couturier que vous pourriez presque employer vous-même en tant que
absolument
photographe, hein, Jean-Baptiste Wynne.
Oui. Oui, il y a une complicité, une gémilité entre Emmanuel et moi.
C'est quoi cette histoire de gémilité?
J'ai rencontré Emmanuel il y a 7 ans sur un bateau, le soir même, alors que c'est quelqu'un d'extrêmement réservé. Il m'a dit, voilà Jean-Baptiste, il y a certaines personnes qui sont des phares de lumière. L'important est de les reconnaître. Et tu en es un pour moi. Il m'a dit, moi j'ai reconnu en toi un jeune Emmanuel quelques heures après t'avoir rencontré. Et Laura, son épouse qui était là, était assez stupéfaite également des points communs. Et dans la construction, et dans la rigueur, et dans la construction du parcours.
Et dans l'approche. Si on regarde effectivement ce qu'il a pu concevoir dans ses défilés, là, des robes d'un flou, d'une fluidité,
oui, absolument,
etc.
Avec une grande sensualité, une grande audace et liberté de création. Et également une grande rigueur dans l'attitude professionnelle, travail de solitaire. Il a eu comme maître Balenciaga, moi j'ai eu comme maître et ami, plutôt comme ami, Irving Penn.
Alors voilà, parce qu'il faut peut-être dire qu'avoir un père spirituel dans votre cas, c'est important pour un artiste, mais c'est peut-être encore plus important dans votre histoire à vous, Jean-Baptiste Wynne. Vous parlez d'Irving Penn, je rappelle, c'est un immense photographe qui nous laisse de multiples couvertures de Vogue. ce grand magazine, mais aussi des photographies de sociétés traditionnelles en Afrique. J'ai vu ça. Pourquoi est-ce que un Irving Penn a pu être un père spirituel, et quelle valeur, quel poids cela a dans votre histoire à vous? Je rappelle, vous avez un papa vietnamien, un peu absent.
Complètement absent. C'est-à-dire qu'à la seconde où j'ai décidé d'être photographe à 18 ans, après avoir fait mes études, et ma vie a basculé.
C'est-à-dire que votre père biologique vous a claqué la porte au nez, si j'ose dire, vous a rejeté au moment précis où vous décidez de vous investir dans l'image.
Oui, le lendemain, et donc ça a été... Il a fallu
vous l'avez compris, ça, ce rejet par rapport à l'image?
Oui, oui, il voulait que je sois banquier, ce qui est le cas de... J'aurais été mes frères, quoi. Mes trois frères.
Est-ce que ce travail dans l'image, pardon d'insister un peu, mais c'est intéressant sur le plan du récit intime aussi, ce travail sur la photo, c'était pas un cadeau finalement que vous faisiez à votre père, qu'il n'a pas su recevoir, bien sûr?
En tout cas, il l'a tout le temps rejeté jusqu'à ma dernière exposition. C'est comme si, de ma perception, comme s'il l'avait vécu comme une trahison définitive.
On parle depuis presque une heure de beauté, de pureté, d'image de soi aussi, et du rapport à l'infini. Ce sont vos principales thématiques,
oui,
Jean-Baptiste Wynne,
ouais,
en tant que,
ouais,
que photographe. Ouais. Un peu comme si vous reconstituiez une sorte de petit théâtre sacré.
Absolument, c'est vraiment des questions qui animent mes nuits, mes rêves, mes journées, incontestablement, et ma manie et mon regard.
La photo peut remplacer la prière?
C'est sûr. C'est sûr.
Đối với ông hay bà, quê hương là đồng nghĩa với chữ gì?
Pour vous, la terre natale, terre d'origine, est synonyme de quel mot?
Jean-Baptiste Wynne.
Pau. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est la douceur et la fluidité de la peau et des corps. Et l'exposition commence par une anecdote qui a été marquante pour moi au Vietnam, lors de mon voyage entre Hanoï et Saigon, où j'étais dans un train pour aller découvrir ma famille de Saigon. Et à 7h du matin, on était 8 ou 10 dans un wagon 3e classe, entouré de Vietnamiens qui étaient en train de manger, parler, rire très fort en vietnamien. Et ils étaient torse nus, et pour moi j'étais au bout du monde, dans un espace que je ne comprenais absolument pas, et je me suis mis torse nu également, et c'est là où j'ai réalisé que j'étais le même. La même non-pilosité, le même corps, et c'était vraiment un choc, parce que le même si dans mon enfance, dans les internats, j'avais bien conscience de ne pas être français, avec les yeux bridés, etc. Mais là, ça m'a fait basculer dans une réalité, à savoir... Je pensais que j'étais différent, alors que j'étais le même. Donc il y avait un effet miroir, il y a eu le avant et après. Et c'est à ce moment-là que j'ai conçu cet ouvrage Intime Infini, où la peau a un rôle si important, et c'est pourquoi je réponds spontanément que c'est le premier mot qui me vient à l'esprit.
Alors Paris-Hanoï, c'est quand même 12 heures d'avion, donc je vais vous prendre par la main, Jean-Baptiste, histoire de se téléporter une minute en sol majeur dans la capitale vietnamienne. Alors, que vous évoquent tous ces sons à vous, le contemplatif, Jean-Baptiste ?
Ça m'évoque effectivement le grouillement qui existe réellement à Hanoï, que je trouve particulièrement peu agréable. Moi j'ai un rapport au son qui est à l'opposé de celui que j'ai avec le regard, à savoir que je compense, et si je ne vois pas quelqu'un, je ne l'entends pas. Ouh. C'est-à-dire que je compense avec le regard.
Regarder l'autre, c'est l'entendre.
Pardon ?
J'adore notre dialogue. Regarder l'autre, c'est déjà l'entendre.
Oui, absolument.
Donc quand vous regardez les visages vietnamiens, vous entendez quoi ?
J'entends une langue que je ne comprends pas, mais qui me touche beaucoup. Mais il y a quand même certaines choses que je reconnais, et à la minute où je suis au Vietnam, justement le rapport à la fluidité, la manière dont les corps se déplacent, je pense que je fonctionne de la même manière. la nourriture et cuisiner vietnamien est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'apprécie depuis adolescent le fait de manger avec des baguettes, beaucoup plus qu'avec un couteau ou une fourchette. Donc il y a quand même certaines choses inconsciemment qui ont été diffusées, je pense, et, ou que j'ai appris après, qui me séduisent beaucoup.
Mmh. Quelle a été la plus belle rencontre photographique que vous ayez faite au Vietnam ?
Cette Huyen. Maintenant, j'ai l'histoire de son visage, enfant, adolescente, femme, maman. J'ai photographié ses enfants également.
Et c'est important pour vous d'avoir, sur le long cours comme ça,
oui.
l'évolution d'un visage, d'une famille,
oui,
d'un récit dans le temps.
Oui, absolument. C'est, de toute façon, la question du visage est centrale et me fascine. Je le fais également sur d'autres enfants, notamment sur un très bel enfant qui est d'origine italienne, jamaïcaine, stupéfiant de beauté, de féminité même.
Parce qu'effectivement, vous êtes fasciné par l'ailleurs, mais en faisant un pas de côté par rapport à cet ailleurs asiatique. Hein, on parle de l'Afrique, ça revient dans notre conversation en Soul Majeur. Vous revenez du Kenya, mais vous avez été au Mali, vous avez été aussi Éthiopie.
Pour moi, les deux pays qui m'ont le plus fasciné, en dehors du Vietnam pour des questions originelles, les deux pays qui m'ont fasciné par rapport au visage, c'est l'Inde et l'Éthiopie.
Pourquoi ?
Et l'Éthiopie, ils sont altiers. Certains sont pré-égyptiens ou bibliques. Enfin, c'est avec une pureté, une noblesse de l'architecture du visage, pour moi, qui m'a vraiment émerveillé.
Une noblesse que vous pouvez déceler en Inde, par exemple, chez un intouchable.
Ah oui, absolument. Ouais. Ou en Éthiopie, chez une jeune femme au marché qui vendait des oranges, c'était une fermière. Pour moi, c'était l'incarnation de Cléopâtre. Et sur le portrait que j'ai fait d'elle, elle la représente. Ou même en Inde, moi j'ai souvenir d'avoir photographié une jeune intouchable qui est dans l'exposition, on dirait une reine, et un cyclo, quelqu'un qui avait un cyclo et un vélo, on dirait un grand acteur. Enfin, c'est... Non, il y a vraiment une
noblesse.
Est-ce
que ça, c'est votre projection à vous ?
Oui, je pense, oui. Parce que par exemple, la jeune vietnamienne, personne ne la reconnaît.
Vous qui êtes un peu une pile électrique parisien, je sais pas. Enfin, vous, oui, si, quand on vous écoute, vous êtes un parisien, quoi, Jean-Baptiste Huyen. Mais avec ce goût, cette obsession de l'ailleurs, pourquoi vous avez toujours besoin de quitter Paris ?
C'est une joie et c'est réellement un besoin. C'est-à-dire qu'à la minute où je suis dans l'avion et en disant le monde m'appartient, je peux partir demain. Découvrir un visage et une culture partout dans le monde, c'est quelque chose qui me passionne, qui me comble et qui nourrit mon travail, mon esprit et ma joie de vivre.
C'est une manière de réaliser tous ces portraits, un immense autoportrait, un autoportrait infini de vous-même.
Très bonne question. En tout cas, le projet d'étude du visage à travers l'usage et à travers les grands ensembles culturels était... de manière symbolique, d'essayer de comprendre le visage humain dans sa diversité. En tout cas, par rapport à ce que vous dites de l'autoportrait, je cherche chez l'autre quelque chose qui est à moi aussi. Puisque tous mes portraits sont sur une expression quand même qui est d'abandon et dans lequel j'ai mis beaucoup de moi-même.
Et vous le trouvez autant dans un visage asiatique que chez un Maasai ?
Oui, absolument. Absolument, c'est ça que je trouve fascinant.
Ouais, c'est marrant parce qu'on dit sage comme une image. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait juste, ça, cette histoire-là.
Oui,
je voudrais qu'on se quitte sur la description, vous allez nous la faire, de cet autoportrait, Jean-Baptiste Huyen, entre vous et votre mère.
M. M. comme. Miroir, miroir. Miroir, miroir.
Donc cet autoportrait avec ma chère maman, je l'ai réalisé il y a quelques mois pour le livre qui accompagne l'exposition Infini d'Asie. Et j'ai dédié le livre à ma maman, avec la dédicace suivante, à ma mère qui m'a donné la vie et ses traits. Et il est vrai que même si j'ai un visage asiatique, tout le monde dit que nous sommes vraiment les mêmes, enfin, une sorte de copie, ce qui est vrai, et dans les traits du visage, et dans le sourire.
Vous êtes sa version asiatique, si j'ose dire.
Exactement.
Alors comment, on ne sait toujours pas quelle photo vous avez faite vous-même avec votre mère. Comment vous la décririez, cette photo ?
Donc j'ai été la voir dans le sud de la France, et je l'avais prévenu que je venais faire un portrait d'elle. Donc j'ai commencé en la cadrant comme si je faisais un portrait seul d'elle, et moi je suis rentré dans l'image, et donc elle est de face, et moi je suis de profil, et je lui donne un baiser. Et elle est avec son sourire rayonnante, elle est toujours en blanc avec ses cheveux gris argent, elle est rayonnante en soi.
Une dernière question, est-ce que vous-même, vous pourriez, comme tous vos modèles, vous abandonner à l'œil d'un photographe ?
Oui, mais il faudrait que je sois bien dirigé. Mais moi-même, même si je travaille sur cette question, le fait de s'abandonner, c'est quelque chose, une fois encore, qui passe par le regard de l'autre. Et quand Irving Penn a fait mon portrait, moi j'ai vraiment le souvenir que je devenais son regard, que je devenais lui.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci Jean-Baptiste Wynne de nous avoir maté, je dirais, pendant presque une heure. Je rappelle l'exposition Infinie d'Asie au Musée Guimet à Paris jusqu'au 20 mai. Et puis, puisqu'on a parlé de beauté, on va finir en beauté avec Beau comme Bowie. C'est parti avec Word on a Wing. Pourquoi ce morceau ?
C'est un morceau que j'aime, que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours beaucoup, et Bowie a été, le visage de Bowie m'a, dans sa diversité, m'a toujours fasciné, et après sa voix. In the search of grand illusion, you walked into my life, out of my dreams. I don't need another change, till you forced your way to my scheme of things. You say growing, growing heart and soul. In this age of grand illusion, you walked into my life, out of my dreams.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio. Et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Ça nous fait quelle heure ça à Paris ? 16h. Caroline Filliette, Juliette Brault, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve et on vous espère vraiment la semaine prochaine puisqu'on sera en Côte d'Ivoire pour le Salon International du Livre d'Abidjan avec Monsieur Yacouba Konaté. À la semaine prochaine.